Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative. Cette émission est réalisée par Radio Campus Amiens, elle est disponible sur le 87.7 FM, en DAB+, et sur radiocampusamiens.fr. Je m'appelle Rémi et je suis votre animateur du jour. Aujourd'hui, je suis accompagné de Benjamin, Florian, Victor à la technique, de Romano Zactu et de Thomas à l'interview. Bonjour tout le monde.
Salut.
Salut.
Vous allez bien?
Bien et toi?
Ça va et toi?
Oui, ça va super, je suis content de réaliser ce nouvel épisode d'Info Club Sandwich. Moi, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Pour ce nouvel épisode d'Info Club Sandwich, Thomas reçoit Hubert et Exaucé de la compagnie Elikia. Ils viennent nous présenter Lumingu à l'école de la chauve-souris, un spectacle qui sera joué mercredi et jeudi prochain au Safran. Thomas, je t'en prie, la parole est à toi.
Aujourd'hui, nous recevons Hubert et Exaucé qui viennent nous présenter leur dernier spectacle, Lumingu à l'école de la chauve-souris. Tout d'abord, bienvenue et merci d'être avec moi ce matin pour répondre à nos questions.
Merci, merci à vous. Thomas.
Et j'ai, en me renseignant sur le spectacle, j'ai remarqué que vous ne l'aviez pas écrit juste à deux. Vous avez ajouté une personne au processus créatif, en l'occurrence Laurent. Est-ce que vous pourriez me le présenter rapidement et me dire à quoi ça vous a servi d'avoir cette personne avec vous finalement dans ce processus créatif? Qu'est-ce que ça vous a apporté?
Oui, donc Exaucé et Hubert sont dans la compagnie Elikia, qui est basée ici à Amiens, et donc on a eu envie de créer un spectacle. Un spectacle où on allait être sur scène tous les deux, dans la vraie vie, on est père et fils, et on s'est dit, on avait des choses à dire, mais c'était bien de faire venir quelqu'un, de travailler avec quelqu'un d'autre, et donc grâce au soutien de la DRAC, Hauts-de-France, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle le dispositif Duo, et donc on pouvait travailler avec un auteur. Ah, donc on a fait appel à Laurent Contamin et il nous était vraiment de très grande importance parce qu'on a fait des résidences de création pour nous, dans un premier temps, dire ce qu'on voulait aborder dans notre futur spectacle et lui découvrir ce qu'on était, nous, Exaucé et moi, voir nos capacités, nos compétences et pouvoir donc écrire ce texte. Et donc, c'est vraiment un texte qui est écrit sur mesure.
D'accord, ok. D'accord, du coup. Et est-ce que le fait de... je sais que vous avez déjà écrit vous tous les deux ensemble. Et est-ce que le fait d'ajouter cette tierce personne à votre processus d'écriture, ça vous a permis de différencier cette création de vos autres œuvres?
Vraiment, vraiment beaucoup, parce que nous, on avait eu des idées et donc on voulait aborder ce thème du métissage, parler de l'identité. Mais Laurent, il est parti plus loin que ce qu'on nous on avait demandé. Il est parti plus loin jusqu'à aborder le sujet de l'identité des œuvres d'art qu'on a dans des musées. On n'avait pas pensé à des choses comme ça et aussi... prendre quelqu'un d'autre qui écrit sur nous, il dit des choses, il y a dans le texte, quand on le joue, ce spectacle, je me dis, ah oui, ça serait venu de telle, de telle occasion, de telle situation qui l'a inspiré, et que nous, on n'avait pas pensé, ou on n'aurait toujours pas pensé à tout ça. C'était vraiment très riche d'avoir quelqu'un comme ça en distance, quelqu'un en extérieur, nous voir et pouvoir nous accompagner, mettre des phrases, des mots sur chacun.
Oui, et c'était très intéressant parce que là, c'était un regard d'un père et son fils et le travail ensemble. Moi, c'est quand même mon père, donc du coup, c'est des moments très forts, des exercices qu'on a travaillé qui n'étaient pas évidents, juste à nous de trouver tout ça. Donc c'était très intéressant d'avoir quelqu'un d'autre qui était là pour écrire, mais qui, Laurent Contamin, qui était aussi en même temps metteur en scène de ce spectacle. Et donc il a été très très important d'être aussi autre que nous. Mais après, on a travaillé aussi avec beaucoup d'autres personnes, une dizaine de personnes pour ce spectacle, qui ont participé pour le costume, pour exposer tout ce qui va être exposé, parce que l'histoire se passe dans un musée, et donc il y a des masques, il y a des instruments de musique, il y a des sculptures, donc il y a différentes choses dans ce musée qui prennent vie, et c'était intéressant, ouais, de travailler avec d'autres personnes aussi pour la lumière, pour tout ça. Donc c'est un très grand travail qui a enfin eu lieu là il y a pas longtemps, parce que on a travaillé ça depuis 2 ans que l'histoire était écrite, et on a travaillé avec différents centres sur ce thème du métissage. Et là, on vient de, après avoir sorti le texte, on a travaillé du coup la scène avec tous les objets qu'il y avait à mettre en place. Et là, on a commencé à le jouer, et il faut venir le 23-24 avril.
C'est une très bonne idée de retirer les dates. On reviendra dessus, évidemment. Et du coup, on a parlé du fait d'ajouter une tierce personne dans le processus créatif et de tout ce que ça pouvait ajouter. Et comme tu l'as dit, même plus qu'une tierce personne, parce que beaucoup de personnes sont impliquées, mine de rien, dans le projet. Et je me posais la question, vous avez énormément de cordes à votre arc en tant qu'artiste. Vous êtes marionnettiste, vous êtes musicien. À quel genre de théâtre on peut s'attendre en allant voir Lumingu?
Oui, Lumingu à l'école de la chauve-souris, c'est un spectacle... pluridisciplinaire, un spectacle total où on retrouve plusieurs disciplines artistiques. À la base, c'est le jeu théâtral, l'histoire de cet homme qui est dans un musée comme gardien, et il deviendra donc directeur du musée, mais il va se permettre de toucher un instrument du musée. Cela fait apparaître l'esprit de ce tambour, de cet objet qui était dans le musée. Et donc, cet esprit, il va beaucoup bouger, il va être dans la danse, dans le mouvement, mais en même temps, il va toucher d'autres objets du musée pour pouvoir les manipuler. Donc, il y a la manipulation d'objets, il y a la manipulation d'ombre, il y a les percussions, il y a le théâtre, et il y a le conte, parce que cet esprit du tambour parleur va raconter des histoires au personnage Lumingu. Donc, c'est vraiment un spectacle où on ne se fatigue pas, les disciplines, les techniques changent tout le long du spectacle.
Ok. Vous avez parlé d'un certain objet qui est très très important, qui semble presque être au centre de la pièce. En effet, Angona, l'esprit du tambour parleur, et qui est inspiré du coup du DJ Awoke, qui a été volé notamment par les colons français pendant la colonisation du Congo. Est-ce que c'était important pour vous de mettre en avant ce sujet dans votre pièce?
Oui, parce que quand l'auteur Laurent nous a proposé ça et qu'on a lu cela, on a dit ah oui, on n'avait pas pensé à cet aspect de l'identité. Nous, on a pensé parler de l'identité, du métissage, de notre identité, nous en tant qu'humains qui sommes partis du Congo pour ici. Mais cet instrument là, Djidji Ayokwe, qui a été plutôt pris à la Côte d'Ivoire à l'époque de la colonisation, cet instrument appartient à qui? Il est aujourd'hui au musée du Quai Branly. Est-ce un objet français? Je crois au regard de la loi, oui, mais cet instrument est réclamé par la Côte d'Ivoire. Et nous, étant Congolais de la République démocratique du Congo, je sais, il y a au musée du Tervuren, c'est rempli d'objets d'art africains, particulièrement du Congo. Quand on va au musée du Quai Branly, dans d'autres musées, on voit ces objets-là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il faut les restituer? Est-ce qu'il faut les garder ici? Et c'était juste... aborder ce problème-là sans avoir toutes les questions. Mais c'est vrai, aujourd'hui, prendre un objet d'art de notre pays vers un autre pays, surtout là, par exemple, des objets, des masques, des sculptures, aujourd'hui, par exemple, au Congo, toucher à un masque, ça fait de vous quelque chose de de mystique. Mystique au sens de la sorcellerie. On dit, ah, il ne faut pas toucher ça. Et pourtant, c'est notre culture. Donc, le fait simplement de prendre ces objets-là et à la place de remplacer par d'autres croyances qui n'étaient pas au départ nos croyances, a fait, je pense, encore jusqu'à aujourd'hui, un problème d'identité, un problème d'équilibre de l'homme africain, je pense, de façon générale, ou du Congolais, vis-à-vis de lui-même. Parce qu'il a perdu une partie de sa culture, il ne reconnaît plus sa culture, il voit sa culture comme... quelque chose de dangereux et donc mieux de prendre la culture de l'autre. Et ça, ça amène à une aliénation, ça amène à je pense, à un grand déséquilibre comme on voit encore aujourd'hui en Afrique, je pense, entre autres. Ça serait aussi par rapport à ça. Mais en même temps, c'est pas que pendant la période de la colonisation a été... violente différemment selon les pays. Au Congo, là, c'était beaucoup plus fort, mais on n'aborde même pas vraiment ça. Mais on se pose la question sur le retour de cet objet-là qu'on a, qui est Angona, dans le cadre de notre spectacle. C'est Angona qui doit retourner dans son pays d'origine. Et donc... est-ce que ces objets-là ont encore un pouvoir ? Parce que tous ces objets, il y a longtemps, avaient une fonction. Chaque objet, chaque masque, chaque instrument avait une fonction. Angona, c'était le tambour-parleur. Ça, c'est l'ancêtre du téléphone. Ça permettait de communiquer entre les villages. Le son du tambour pouvait résonner jusqu'à 20 km de distance. Et donc, ça permettait de passer des messages codés. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Est-ce encore utile aujourd'hui? Oui, il y a les réseaux sociaux où en un seul clic, tu vas à des milliers des kilomètres. Mais il y a aujourd'hui, est-ce qu'il faut, dans des villages qui n'ont pas Internet, il faut leur dire non, 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 arrêtez de jouer à vos tambours, il faut juste communiquer. Et dans ces villages-là, malheureusement, ils commencent à avoir peur de toucher à leur propre tambour pour dire non, 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 non. Ce qui est mieux, c'est de chercher des instruments, des objets qui viennent de l'extérieur, des techniques qui sont beaucoup plus contemporaines, qui viennent de l'extérieur.
D'accord, ok. Du coup, à travers finalement ces objets, on parle aussi, oui, de métissage, du coup, qui est mine de rien un thème hyper important, et notamment ce, être déraciné de sa culture pour être réenraciné dans une autre. C'est aussi un sujet assez lourd de sens. Du coup, même si le spectacle ne cherche pas à y répondre, il cherche à mettre le sujet en avant, mine de rien, quand même, histoire d'en reparler, histoire de mettre une loupe sur ça, sur le métissage, le multiculturalisme, ce genre de choses.
Oui, c'est un sujet pas que pour l'instrument, mais aussi pour le personnage qui est joué. Donc là, c'est père et fils, mais dans le spectacle, on joue le même personnage. Ce personnage qui vient de l'Afrique, dans un musée, il se retrouve à travailler en tant que veilleur de nuit. Et petit à petit, il met de côté et il repart à son pays en Afrique et il voit que les regards des gens ne sont plus pareils. Bien sûr, on l'accueille avec toute la joie, mais avec tous les questionnements aussi qu'ils ont. Il lui pose tellement de demandes qui se questionnent, du coup, lui, qui il est vraiment. Parce que quand il essaye de retourner en France, on lui demande tous ses papiers, on lui demande plein de choses et il ne sait plus qui il est. Est-ce qu'il doit vraiment retourner en France? Est-ce qu'il doit repartir en Afrique, partir en Europe ou repartir en Afrique? Donc, il se questionne sur tout ça, sur cette identité, et c'est là qu'on apprend vraiment mieux sur lui, parce que c'est là où il se rend compte la valeur de la chauve-souris, parce que donc dans l'histoire, il y a un esprit qui lui raconte des histoires sur des animaux, sur des oiseaux, et il lui raconte l'histoire de cette chauve-souris. Comme vous savez, les chauves-souris ont, rien qu'en les regardant, ils ont différents
Comme une chimère animale, finalement.
Voilà, ils ont un peu de tout en eux. Et du coup, il faut avoir ce regard-là sur la chauve-souris, qui est une sorte de richesse de tous ces animaux en lui-même. Il vole, mais voilà, il a vraiment... voilà, mais on a peur de cette chauve-souris. On le considère des fois pas. On le rejette. Donc, c'est ça la richesse. C'est de voir qu'on est un peu tout ça, on n'est pas seulement l'un ou l'autre, mais on est tout ce mélange-là, qu'on se questionne sur qui on est vraiment. Voilà.
Ok. Hyper intéressant, et du coup, on peut voir qu'il y a quand même des sujets assez, assez puissants qui sont quand même mis en avant dans ce spectacle. Et du coup, je me posais la question, parce que je sais que vous avez quand même fait des œuvres qui étaient destinées plutôt à des jeunes publics, mais là, à qui s'adresse du coup le spectacle ? Quel est le seul public type, s'il y en a un ?
Le spectacle s'intéresse à tout public à partir de 9 ans. À partir de 9 ans, simplement par rapport au sujet qui est abordé pour arriver à mieux comprendre. Mais on a commencé à le tester pendant nos sorties des résidences. On a eu à faire des résidences au Tas de Sable chez Ponce Verte ici à Amiens, au Théâtre Al Roubleau, à Fontenay-sous-Bois, au Théâtre Jacques Brel à Monthermé vers Charleville-Mézières et partout. Où on le fait, quand on fait une sortie de résidence, c'est un spectacle qui parle à tout public, beaucoup aux adultes, mais aussi aux enfants, qui, quand ils regardent, il y a différentes lectures à faire, façon de regarder ce spectacle pour le comprendre. Tant on peut se plaire par la forme qui est très dynamique, c'est un spectacle qui est vivant, vraiment, mais en même temps, dans les thèmes abordés, On se retrouve pas seulement parce qu'on est africain, on se retrouve parce qu'on est humain de foi, parce qu'on a quitté le Crotoy pour aller vivre à Paris et que ou encore on est parti de l'Espagne pour venir en France ou en Belgique et donc tout ça, on a quitté chez soi pour aller vers un autre lieu qui était inconnu où on se retrouve. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on se retrouve? Comment, qui on devient? On est de là-bas ou d'ici? Et donc, le spectacle aborde ce genre de problèmes et qu'on dit, c'est pourquoi on parle du métissage culturel, pas de peau, mais un métissage culturel. Donc, ça concerne tout le monde. Intéressant pour tout public. À partir de 9 ans, c'est mieux.
Oui. Et c'est très dynamique, c'est aussi un métissage au niveau de l'art, donc masque, percussion, marionnette, et puis là il y a des moments de rouleau, il y a des moments d'ombre, et donc il y a vraiment différentes choses, et on n'arrête pas, nous on bouge, on se change souvent, donc ça c'est très dynamique, on s'ennuie pas, et du coup les enfants à la fin, ils ont plein de questions sur plein de sujets parce que du coup en même temps on est dans un musée, du coup il y a tous les masques à voir, enfin c'est une curiosité aussi les musées, c'est on sait pas pourquoi ça nous questionne toujours les musées, on reste captivé à tout ce qu'il y a autour et on est là pour répondre à différentes questions.
Ok, et dans ce cas-là, moi j'ai qu'une question qui me vient à l'esprit, mais quand est-ce que je peux avoir la chance de venir voir jouer Lumingo à l'école de la chauve-souris ?
Le spectacle joue le mercredi 23 au Safran, la scène conventionnée à Amiens, c'est à Amiens Nord. Au Safran, le mercredi 23, nous jouons à 10h, après à 16h. Et le jeudi 24, nous jouons au Safran encore à 10h et après à 14h30.
Bah merci beaucoup. Petite dernière question, est-ce qu'on peut vous suivre sur des réseaux sociaux ? Où est-ce qu'on peut retrouver toute l'actualité de la compagnie ?
compagnie-elikia.fr, ça c'est le site internet. Sinon, on peut nous retrouver sur Facebook et Instagram.
Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui.
Merci à vous aussi.
Et à bientôt sur Radio Campus Amiens.
Merci beaucoup.
Un grand merci à Hubert et Exaucé, membres de la compagnie Elikia. Ils sont venus nous présenter le Mingu à l'école de la Chauve-Souris, un spectacle qui sera joué au Safran mercredi 23 avril et jeudi 24 avril 2025 au Safran. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site de la compagnie ou sur celui d'Amiens Métropole. Écoutions Good Riddance de Darren Korb et Ashley Barrett. Info Club continue et c'est l'heure des actus et plus précisément l'heure de la chronique. Roman, il me semble que tu vas nous parler d'une couleur un peu particulière, je t'en prie.
Oui, alors le vert n'est pas seulement la couleur de notre radio ou de la maison Serpentard dans Harry Potter, c'est aussi la couleur très en vue à l'époque victorienne. On est au 19e siècle en Angleterre et le vert est associé à la nature et la féminité et il offre ce qu'on va dire un oasis de fraîcheur dans un monde gris et noir qui est celui de la révolution industrielle à l'époque. Les femmes s'arrachent donc les robes vertes, mais mélanger du bleu et du jaune ne suffit pas à faire durer le vert dans le temps qui au final s'estompe rapidement. C'est alors qu'arrive Carl Wilhelm Scheele, un pharmacien suédois, et lui, il trouve la solution en utilisant de l'arsenic blanc. Le vert est enfin aussi pétant que celui de la pelouse des parcs et il ne se décolore pas. Mais le souci, vous en doutez, c'est l'arsenic qu'on mélange d'ailleurs au cuivre. En fait, l'arsenic craque avec le temps et la poussière et il est rejeté dans l'air. Et les gouttes de sueur en contact avec l'arsenic propagent la contamination sur tout le corps. Les femmes qui portent ces tissus voient donc apparaître sur leur peau des petites cloques de couleur verdâtre et d'autres symptômes comme les nausées, des mal de tête insupportables et j'en passe. Et donc il n'est pas rare de développer un cancer de la peau et d'en mourir. Celles et ceux qui confectionnent les robes et leurs accessoires ne sont pas épargnés également. Mathilda Schurer, c'est une fleuriste londonienne qui réalise des couronnes de fleurs vertes qui agrémentent les robes et elle respire l'arsenic à longueur de journée, si bien qu'avant de mourir, elle se met à vomir vert, le blanc de ses yeux le devient également et elle est prise de convulsions, en fait, la substance l'a empoisonnée. Et même dans son livre Fashion Victims en 2015, l'historienne Alison Matthews-David raconte que les gravures qui représentent les femmes portant des robes vertes sont très répandues, mais la peinture verte, encore une fois, elle est produite avec de l'arsenic. Elle suppose que ceux qui colorient ces gravures sont intoxiqués, notamment parce que nombreux sont les peintres qui lèchent leurs pinceaux pour obtenir une pointe fine. Et Chaillot est lui-même mort d'ailleurs dans son atelier à cause de cette substance. Mais puisque l'arsenic est aussi utilisé comme traitement médical, certains ont du mal à imaginer qu'il puisse être mauvais. Et d'ailleurs, le verre arsenic est populaire et peu cher à produire, donc on imagine qu'il rapporte gros à l'industrie de la mode. C'est aussi pour cela qu'on est réticent à l'interdire à l'origine. Mais les cas de mort qui se multiplient finissent par sonner l'alerte. La Ladies Sanitary Association, une association de femmes ici, charge le docteur Hoffman de mener une enquête qu'il publie dans le London Times, et selon ses estimations, une robe réalisée à partir d'une vingtaine de mètres de tissu pouvait contenir jusqu'à 900 grains d'arsenic. C'est un chiffre quand même inquiétant quand on sait que 4 à 5 grains représentent une dose mortelle pour un adulte moyen. Et d'ailleurs, la reine Victoria aime aussi beaucoup le verre, hein, jusqu'à ce qu'elle constate, comme les autres, à quel point il est dangereux d'en porter. L'historien Michel Pastoureau dit même qu'elle développe carrément une phobie vis-à-vis de cette couleur. Et donc, des tests sont désormais proposés aux femmes pour déterminer si leur robe contient ou non la fameuse substance chimique. C'est ainsi qu'on voit les acheteuses se précipiter dans les magasins avec des petites fioles d'ammoniac. Et l'idée est de laisser tomber une goutte du produit sur la robe. Et en fait, si le tissu devient bleu, cela veut dire qu'elle contient du cuivre, ce qui est synonyme de la présence d'arsenic. Et c'est le grand public qui fait pression sur les commerçants pour avoir des vêtements qui en sont dénués au vu du danger. Et à la moitié du 19e siècle, on voit alors une nouvelle couleur apparaître. C'est le vert minéral qui cette fois-ci est fait à partir d'alcool déshydrogéné. Donc en gros, c'est un alcool déshydraté. Et désormais, le vert est sans danger.
Merci Romane pour cette chronique. Où est-ce que tu as appris tout ça ?
Eh bien, c'est en faisant des recherches sur Internet, okay, tout simplement.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie de traiter ce sujet ?
C'est parce qu'en fait, je suis tombée sur une vidéo TikTok, comme beaucoup de jeunes de mon âge qui vont sur TikTok. Et il y a une personne qui est spécialiste de l'époque victorienne qui dévoilait quelques faits intéressants sur cette époque, comme le fait que l'arsenic... était littéralement dans tous les objets. On pouvait en manger dans des bonbons. Les rideaux étaient faits à partir d'arsenic. Il y en avait partout. Et en fait, il y a plein de gens qui mouraient à cause de ça. Et moi, je me suis intéressée aux robes parce que, en fait, il y a des femmes à l'époque, c'est ce qu'elles portaient. Et en fait, les robes vertes, elles étaient partout. Et voilà.
Très bien. Merci beaucoup, Romane. C'est déjà la fin d'Info Club Sandwich. Je vous propose de terminer en musique avec le morceau If Six Was Nine de Jimi Hendrix. Merci de nous avoir écoutés et à demain pour de nouvelles actus. Au revoir.
White-collar conservative flashing down the street, pointing their plastic finger at me. They're hoping soon my kind of drop and die, but I'm gonna wave my green flag. Hi!
fall on me. What on, Mr. Businessman? You can't dress like me.
It's time for me to die. So let me live my life the way I want to. There. Sing on, brother. Play on, brother.